Europe 1 Culture Média.
Voici les coups sur son dos. Là, les coups sur ses tempes. Il y a des traces d'électrochoc partout sur son corps. Sur sa langue, sur son palais, sur ses lèvres. Sur le bout de ses doigts, il y a 28 marques. Toutes ses mains ont été tailladées. Ce sont ses poignets. Toutes les veines sont déchirées. Et les enquêteurs nous racontent qu'après tout ça, il a soi-disant essayé de se suicider.
Celui que vous venez d'entendre, c'est le fils d'un oligarque russe, Valérie. Il raconte ce qu'a subi son père qui s'est opposé aux méthodes de Vladimir Poutine. La traque des oligarques russes depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est l'objet d'un numéro d'enquête exclusive sur M6. Le présentateur Bernard Larvillardière et le réalisateur de cette enquête, Vincent Prado, seront nos invités dans quelques minutes. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour Culture Média, au menu Média et Culture au sens large. Nos indispensables du jour, ce seront des conseils cinéma et Expo. On est ensemble pour 2 heures en direct, évidemment. Il y a le podcast europe1.fr si vous voulez rattraper la partie qui vous manque. Nos invités ensuite, ce seront Adeline Tognutti et Laure Ballon. Elles sont toutes les deux profs dans la Star Academy qui renaît de ses cendres sur TF1 et ça marche. 2 millions de téléspectateurs pour la quotidienne à 17h30 avec aussi des images inédites sur les réseaux et parfois des polémiques nouvelles. Ça n'existait pas les réseaux quand l'émission s'est lancée. Enfin, le dessinateur Riyad Satouf en deuxième heure. On parle de sa dernière BD, L'Arabe du Futur, 6e et dernier Tom. Il nous dira également où il en est des cahiers d'Esther et du film qu'il prépare avec les inconnus. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Louise, au sommaire de votre journal des médias.
Des journalistes du site internet Gamekult priaient de faire leur carton bien plus tôt que prévu. La libération d'un journaliste en Iran qui était parti en reportage pour Arte. Une nouvelle émission pour Stéphane Plaza.
Non, encore.
Encore une. Amazon veut devenir un grand producteur de cinéma américain. Et puis en fin de journal, un youtubeur fait son entrée dans un musée.
Mais d'abord, on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3.
Bon, ça va devenir une habitude, hein. Évidemment, le foot sur TF1, c'était le match Belgique-Canada, 5 430 000 téléspectateurs. C'est mieux que le match de lundi soir. Alors évidemment, c'est pas comparable avec les Bleus mardi soir, mais lundi soir, c'était États-Unis-Pays de Galles et ça avait frôlé les 4 millions. Là, on est donc au-dessus, 23,7% de part d'audience. Deuxième, c'est France 2 qui lançait la saison 2 de sa série Les Invisibles. Et ça résiste bien, 3 640 000 téléspectateurs en moyenne devant les deux épisodes. 18,3% de part d'audience, donc c'est légèrement en dessous de la moyenne de la saison 1, mais franchement c'est un bon retour et ça résiste bien encore une fois. Et puis troisième, là ça résiste moins bien, Le Meilleur Pâtissier sur M6, 1 880 000 téléspectateurs hier soir, c'est le plus petit score de la saison, 10,3% de part d'audience.
Ouais, mais c'était pas présenté par Stéphane Plaza, Le Meilleur Pâtissier.
Le journal des médias.
Des journalistes du site internet Gamekult ont été sommés de quitter leur poste plus tôt que prévu.
Impossible pour eux désormais d'écrire sur le site internet et surtout de faire leur dernière émission sur Twitch, celle des adieux à leurs lectrices et lecteurs. Impossible de remettre les pieds tout court dans la rédaction. Le journal Libération raconte que les journalistes ont été priés de faire leur carton en vitesse lundi. Il y a une semaine, je vous en parlais dans ce journal, la quasi-intégralité de cette rédaction spécialisée dans les jeux vidéo avait décidé de partir suite à un changement d'actionnaire, mais ils devaient continuer de travailler jusqu'au 7 décembre. Ils ont finalement été dispensés de leur préavis. Quelques jours avant lundi, donc date à laquelle on leur a demandé de faire leur carton, ils avaient consacré une émission entière sur Twitch à ce départ collectif pour annoncer et expliquer cette décision. Ils l'avaient fait avec beaucoup de prudence, hein, mais on avait compris entre les lignes qu'il était question de crainte pour leur indépendance éditoriale. Une des raisons qui ont poussé les journalistes à prendre ce qu'on appelle une clause de cession. C'est un dispositif qui est prévu en cas de changement de propriétaire, qui permet donc aux journalistes de partir et de le faire dans de bonnes conditions financières.
Dans l'actualité également, on a appris la libération sous caution d'un journaliste en Iran.
Un journaliste d'origine iranienne vivant en France, Vahid Shamsoudinezad. Il était parti en Iran pour Arte, pour couvrir les manifestations qui secouent le pays. Il s'était fait arrêter fin septembre, puis emprisonné. Je vous en avais parlé là aussi dans ce journal. 2 mois après, le voilà libéré, mais sous caution, hein, il attend désormais son procès. Arte ajoute dans dans son communiqué. Procès qui lui permettra de s'expliquer et nous en sommes convaincus de dissiper les charges qui pèsent contre lui. En annonçant son arrestation, la chaîne avait indiqué que le journaliste travaillait sur place en parfaite transparence vis-à-vis des autorités de Téhéran. Il leur avait d'ailleurs déposé la lettre d'accréditation d'Arte et les coordonnées de sa carte de presse française.
J'ironisais, mais on est très content pour lui. Encore une nouvelle émission pour Stéphane Plaza, émission qu'il va co-animer.
Oui, en fait, il va assurer la présentation de Mission Travaux avec Laurent Jacquet, qui est un entrepreneur. Alors, ce n'est pas une nouvelle émission, elle existe déjà depuis février, mais lorsqu'elle avait été lancée pour le premier numéro, Laurent Jacquet avait été seul à l'animation. Et donc, pour son retour en décembre, Mission Travaux va être co-animée par Stéphane Plaza. Donc, l'audience avait été correcte pour la première, plus de 2 millions de téléspectateurs. Et puis M6 avait surtout été la chaîne la plus regardée par les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Mais l'arrivée de Stéphane Plaza permettra probablement de faire un peu mieux. Rappelez-vous, il a été élu animateur préféré des Français. Et ça, M6 l'a bien retenu. La chaîne ne cesse de lui confier des nouvelles émissions. Dans quelques semaines, il sera à la tête d'un nouveau programme, une nouvelle maison pour une nouvelle vie. Et puis, il anime déjà sur M6 recherche appartement ou maison, maison à vendre, chasseur d'appart, tout changer ou déménager. Et puis, il y a l'émission aussi sur Gulli, lancée cette année, Rénovation Surprise.
L'entreprise Amazon va-t-elle bientôt se lancer dans la production de films au cinéma ?
C'est ce qu'affirme le média américain Bloomberg. Amazon serait prête à débourser plus $1 milliard chaque année pour produire...
Oh, j'ai relevé la tête. Un milliard.
Mais oui, pour produire 12 à 15 films par an. Et là où c'est particulièrement intéressant, effectivement, c'est que c'est à peu près équivalent à ce que produisent les grosses sociétés de production comme Universal, Paramount ou Warner Bros. C'est une très bonne nouvelle financière pour l'industrie du cinéma qui est en difficulté depuis la pandémie et qui souffre aussi de la concurrence avec les plateformes de streaming comme Amazon Prime Video. Voilà, et pour se lancer dans une production d'une telle ampleur, Amazon va s'appuyer sur le studio MGM qui a été racheté l'an dernier. Vous savez, c'est, vous le voyez au début des films, c'est le lion qui rugit, c'est ça, dans le cercle doré.
Je sais faire que le chat.
Bon, c'est un mini lion, un petit lionceau. Voilà, là c'est un gros lion qui rugit d'habitude. C'est un studio américain historique qui a notamment produit les James Bond.
Et on termine avec une première dans l'histoire du musée Grévin. Un youtubeur va avoir sa statue.
Oui, signe de l'importance qu'ont pris ces créateurs de contenu dans notre société. Le musée Grévin a proposé au plus populaire d'entre eux d'avoir sa statue de cire, Squeezie. Plus de 17,5 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est lui aussi qui a organisé un grand prix d'automobile très suivi en direct sur Twitch avec un pic à plus d'un million d'utilisateurs. Sa statue va être inaugurée début décembre. Elle sera placée dans la même salle qu'Omar Sy, George Clooney, Marilyn Monroe. Et il ne posera pas seul. Le Huffington Post nous apprend qu'il sera accompagné de son chien Natsu, que les fidèles... Mais oui, mais attendez, c'est très important parce qu'en fait, Natsu est très présent sur la chaîne YouTube de Squeezie. Il fait souvent des apparitions. Il y a même des vidéos entières qui lui sont consacrées.
Merci beaucoup, Luce Bernard. Toutes ces infos et peut-être même la photo de Natsu sur notre newsletter média. C'est gratuit pour s'inscrire, europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. Le voilà, le lion de la MGM. Merci beaucoup, Jérémy Hébert et ses équipes.
C'est pas vous qui l'avez imité.
Pas du tout. Et ses dompteurs même. Dans un instant, sur Europe, notre info média du jour, nous serons avec les journalistes Bernard de la Villardière et Vincent Prado. On parle du prochain numéro d'enquête exclusive consacré à la traque des oligarques russes depuis la guerre en Ukraine. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Depuis l'invasion de l'Ukraine et les sanctions prises à l'encontre de Moscou, l'Union européenne a décidé de geler le patrimoine des oligarques russes. Ces hommes d'affaires richissimes, ça se compte en milliards, et surpuissants, accusés de financer la guerre. Pour ceux qui n'ont pas réussi à dissimuler leur fortune et qui n'ont pas eu le temps de quitter l'espace européen à temps, de nouvelles stratégies se sont mises en place, à Chypre ou alors en Finlande par exemple, pour leur permettre de monter des sociétés écrans avec à leur tête des hommes de paille. Raquettes, intimidations, tortures, vrai ou faux suicide, une équipe d'enquête exclusive a réussi à mettre à nu certaines astuces de pouvoir de Vladimir Poutine. Mais comment s'approcher au plus près de ces gens les plus dangereux ? Comment faire parler des Russes apeurés par les représailles ? Il aura fallu plusieurs mois aux journalistes pour nous livrer ce document édifiant. Bonjour Vincent Prado.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur de ce doc qui va passer dimanche à 23h sur M6. Enquête exclusive, le titre Oligarque russe, la grande traque. Quand avez-vous démarré cette enquête ? Quel a été le point de départ ?
Alors, au début, on s'est posé la question, dès la mise en place des sanctions européennes envers les oligarques, on s'est posé la question à savoir si ces sanctions envers les oligarques allaient être efficaces.
Au début de la guerre, donc en mars.
Au début de la guerre. tout début de la guerre, dès les premières décisions de la mise en place des sanctions, on s'est posé la question, est-ce que ces sanctions vont être efficaces pour et influencer sur le cours de la guerre? Et on a commencé à chercher des oligarques, à les traquer, à voir ceux qui étaient sous sanctions, si ces sanctions avaient un effet sur eux. Et c'était le début de l'enquête.
Alors, à ce jour, le montant total des avoirs bloqués des oligarques russes bloqués en Europe, ce montant s'élève à 14 milliards d'euros. Les oligarques empêchés par la présidente de la Commission européenne de disposer de leur fortune sont 1200. Ils sont accusés de soutenir la guerre en Ukraine. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont tous des amis de Vladimir Poutine?
Alors, pour certains d'entre eux, ils sont extrêmement proches de Poutine, comme Igor Sechin. On dit même que c'est le bras droit, que c'est l'homme le plus puissant de Russie après Poutine. L'homme est sous sanction. Mais beaucoup d'oligarques, ce qu'on a découvert avec notre enquête, sont victimes du système Poutine. C'est-à-dire que les oligarques ont peur de s'opposer à Poutine. Beaucoup d'entre eux sont contre la guerre, sont contre les décisions politiques de Poutine, mais très peu osent le dire. Et s'ils le disent, c'est ce qu'on va voir dans le documentaire, s'ils le disent, ils peuvent s'exposer à des sanctions du régime de Poutine. On peut même affirmer que la majorité des oligarques ont la peur au ventre.
Actu immédiate, on a vu que le site de l'Union européenne, je crois que c'est pas à Strasbourg mais c'est à Bruxelles, a été hacké hier. On pense que ça vient des Russes. Bernard Lavillardière nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Bernard.
Bonjour.
De votre part, est-ce que votre compte a été hacké? Est-ce que vous avez eu des craintes en vous lançant à la tête d'enquête exclusive dans ce sujet contre les oligarques russes et donc contre le pouvoir du Kremlin?
Avec les sujets de Vincent, on a souvent peur en fait, parce que Vincent est un de mes sujets un peu compliqués. Je me souviens d'ailleurs, il y a quelques années, il avait fait un film sur le président de la Tchétchénie et notre site avait été hacké. Et effectivement, les techniciens qui étaient intervenus sur le site de Ligne de Front se sont aperçus qu'il y avait des lettres en cyrillique et nous avaient dit « Oui, vous avez été hacké, votre site a été mis délibérément en drapeau. » Mais Vincent, c'est vrai que enfin, on travaille ensemble depuis des dizaines d'années, au moins une quinzaine d'années. Et c'est vrai qu'il a fait des sujets sur le cartel de Sinaloa. Enfin, et c'est un des rares, d'ailleurs, quand il va sur le terrain, j'ai vraiment peur pour lui, et on s'appelle de temps en temps, et je lui dis de rester prudent. Voilà. Et ce film sur les oligarques est fabuleux. Il a fait des mois et des mois d'enquête. Et c'est vrai que M6 a été formidable aussi de nous soutenir sur cette émission.
Premier témoignage, Vincent Prado. Il s'appelle Maxime. Il est journaliste ukrainien à Radio Liberty. Radio Liberty, ça se trouve où?
Alors, normalement, ça se trouve à Kiev. Mais là, comme la capitale Kiev était menacée, bombardée à certains endroits, ils ont déménagé les bureaux à Lviv.
Mais ils sont toujours en Ukraine. Il enquête, Maxime, depuis plusieurs années sur l'un des hommes de Poutine en Ukraine. Il s'appelle Viktor Medvedchuk.
Viktor Medvedchuk.
Merci de m'aider. On l'écoute nous le présenter.
Medvedchuk est une personne pro-russe, un agent qui défendait les intérêts de la Russie en Ukraine.
Viktor Medvedchuk est ce qu'on peut appeler un cheval de Troie du pouvoir russe.
Selon des analyses et des avis de politiques, c'est Medvedchuk qui dénonçait et donnait des informations sur la situation en Ukraine à Vladimir Poutine. Mais parfois, les informations n'étaient pas exactes. Il disait notamment que les soldats russes seraient accueillis par les Ukrainiens, avec joie.
Comment vous avez rencontré Maxime ?
Alors Maxime, je cherchais quelqu'un qui était spécialiste de Viktor Medvedchuk. Il n'y en a pas beaucoup. Peu de personnes ont eu le courage d'enquêter sur ce personnage qui était très proche du Kremlin et qui avait des méthodes qui étaient proches de méthodes mafieuses en Ukraine. Et j'ai découvert Maxime parce qu'il a écrit un livre. Il a fait une enquête qui a duré 3 ans sur Medvedchuk. Bien avant la guerre, il a commencé à s'intéresser à ce personnage-là. Donc je l'ai contacté, je lui ai dit « Écoute Maxime, est-ce que tu serais partant pour m'emmener sur le terrain et me faire découvrir un peu l'univers de Medvedchuk ?»
Vous êtes allé sur le terrain, je ne pensais pas que c'était possible un tel étalage de richesses. Il a une immense maison, alors je vais raconter, il a été mis en prison et ensuite il a été échangé par le président Zelensky contre 200 combattants russes. Donc il est reparti du côté de la Russie, mais raconter sa maison et raconter cette copie du wagon-bar de l'Orient Express. Parce que je n'avais jamais vu ça. Une telle débauche, c'est même dégoulinant de fric, il n'y a pas d'autre mot.
En or plaqué.
Ouais.
En or plaqué. Alors le Medvedchuk, il était fan de train, et sa femme, pour lui faire plaisir, qui s'appelle Marchenko, lui a offert un wagon qu'on estime à 8 millions d'euros. Et à l'intérieur de ce wagon, Maxime est pénétré, le journaliste ukrainien est pénétré pour la première fois à l'intérieur du wagon avec moi. Ils ont même enlevé les scellés du wagon pour qu'on puisse rentrer avec Maxime à l'intérieur du wagon. Et là, le journaliste, il en revient pas, quoi. Et moi non plus, j'en reviens pas. On découvre que les robinets sont en or, que le bar est en or, qu'il y a des écussons russes sur les verres qui sont également en or, des télévisions à l'intérieur, de la marqueterie de luxe. C'est quelque chose qui est... on n'en revient pas tous les deux et on va passer beaucoup de temps dans ce wagon, être surpris à chaque instant.
D'une manière générale, d'où vient l'argent des oligarques russes? Les milliardaires américains, ils travaillent. Le patron d'Amazon, il travaille avec Amazon. Le patron Elon Musk de Tesla, il travaille avec Tesla. Les oligarques russes, avec quoi travaillent-ils? D'où vient l'argent? Est-ce que ce sont des rentes qui leur sont accordées par le pouvoir?
Oui, en quelque sorte. Mais il faut dire que l'argent, à l'origine, il vient de après la perestroïka, la chute du mur, la démocratisation de l'URSS, toute l'industrie qui était soviétique.
J'ai mal posé la question.
Est-ce qu'ils ont entre leurs mains?
Est-ce qu'ils ont créé quelque chose? Ou est-ce que ce sont, comme on appelle, des fromages qu'on leur a accordés aux uns et aux autres?
On leur a accordé des fromages, c'est clair. Après, ils bossent parce qu'il faut les gérer, il faut faire des emprunts, y compris avec des banques étrangères, etc. Tous ces gens ont aussi bénéficié de la bienveillance du système financier international, notamment à Londres. Et aujourd'hui encore, la traque des oligarques, ça continue. Il y a des oligarques, notamment en Moldavie, il y a le célèbre Ilan Shor, dont on n'a pas parlé dans le film, qui finance des manifestations pour essayer de renverser le gouvernement afin qu'on mette en place un gouvernement pro-russe à la solde de Poutine et de ses amis. Et tous ces gens-là, je pense que d'ailleurs, il y aura un oligarque 2 à faire. J'espère que ce film va bien marcher. Parce que, encore une fois, la traque des oligarques, elle continue. Il y a Londres qui continue, la place financière continue à leur faire les yeux doux. Et puis il y a aussi Israël. Il y a des oligarques qui sont israélo-russo-israéliens et qui continuent de vivre et de financer la guerre de Poutine à partir d'Israël ou d'ailleurs.
On est ici une émission média. Vous êtes un homme de médias, Bernard de la Villardière. Il y a aussi les chaînes russes créées, qui avaient été créées en Ukraine, qui ont été stoppées par le gouvernement Zelensky. Il y a aussi une guerre de ce point de vue-là.
Oui, absolument. D'ailleurs, moi, j'ai à l'occasion de cette émission, vous verrez également, j'étais à Riga avant-hier, en Lettonie, et j'ai rencontré les journalistes indépendants qui ont quitté Moscou, Deutsche TV, très courageux, des journalistes très courageux, et puis le fameux journal, le magazine Novaya Gazeta, qui est une sorte de l'Express ou du Point russe, et qui se sont réfugiés à Riga parce qu'ils étaient sous pression. Il faut rappeler que Novaya Gazeta, ils ont eu 6 journalistes tués, dont la célèbre Anna Politkovskaya, il y a quelques années déjà.
Je voudrais qu'on passe un extrait de la chaîne Russia 1 avec leur fameux journaliste pro-Kremlin qui s'appelle Vladimir Solovyev. Juste un mot, l'extrait qu'on va entendre avant qu'on l'entende. Il date de quand l'extrait? Vous ne le dites pas dans le reportage.
C'est un extrait qui date de quelques semaines avant le début de la guerre.
Alors, c'est ce journaliste pro-Kremlin, donc Solovyev, il est actuellement sous sanctions européennes, qui n'hésite pas à insulter un de ses invités. Il a plusieurs invités sur son plateau, il y a des Russes et il y a un Ukrainien. Écoutez ce qui se prend dans la tronche, il n'y a pas d'autre mot, on écoute.
Vous êtes responsable de la mort des Polonais, des Juifs, des Russes et d'énormément d'Ukrainiens.
Sur le plateau, il n'hésite pas à traiter son seul invité ukrainien, de nazi.
Arrête! Ne touche pas à la mémoire de ces 9 millions de morts, ne touche pas à leur mémoire. Tu es un nazi, ne dites pas des conneries. Casse-toi, prends tes affaires et dégage d'ici, casse-toi.
Ça, c'est pas une petite chaîne.
C'est la chaîne principale en Russie. C'est une émission culte qui est regardée par des millions de Russes. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que cette propagande-là était aussi diffusée sur les chaînes de télévision en Ukraine. Ces chaînes de télévision qui étaient financées par les Russes et dont Viktor Medvedchuk était à la tête.
Et Solovyev, très régulièrement aujourd'hui encore, pose la question de « mais faut-il pas frapper avec une bombe nucléaire tactique des villes comme Londres, Paris, etc. ?» Et ce sont des scénarios sur lesquels il vitupère et il parle pendant des heures.
Non, mais c'est un présentateur. Imaginez un présentateur de TF1 qui dirait t'es un nazi,
oui,
prends tes affaires,
dégage d'ici. On avait fait un film sur la guerre en Ukraine vue de Russie, fait par mon fils Marc, et il avait longuement rencontré Solovyev.
Bernard Larvillardière a rencontré tout le monde, il est avec nous, Vincent Prado est avec nous. On continue de parler de ce doc assez exceptionnel, Oligarque russe, la grande traque. Culture Média continue.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Bernard de la Villardière, c'est le présentateur, en compagnie de Vincent Prado, c'est l'auteur de cette enquête. C'est dans Enquête exclusive que vous verrez les oligarques russes, la grande traque dimanche à 23h sur M6. Cette enquête nous conduit à Chypre, où il y a beaucoup de Russes qui ont investi via des sociétés écrans, il y a ce qu'on appelle des hommes de paille, c'est connu. Ce que j'ignorais, c'est que Chypre, jusqu'en 2020, Bernard de la Villardière offrait un cadeau alléchant, la nationalité chypriote, et donc un passeport pour tout investissement qui dépassait 2,5 millions de dollars ou d'euros, je ne sais pas.
C'est un peu le même système qu'à Malte, d'ailleurs.
C'est légal, c'est illégal.
C'est légal, mais il y a des cabinets d'avocats un peu véreux qui vous aident à monter des dossiers, et voilà, et on fait beaucoup de blanchiment d'argent. Et puis il y a des sociétés fictives, on fait semblant d'avoir viré 2,5 millions, puis ce n'est pas tout à fait 2,5 millions. Enfin voilà, on gonfle les dossiers. C'est de la gigantesque manip. D'ailleurs, j'espère qu'on n'aura pas de procès après le film de Vincent, parce qu'on a déjà mis en cause ces pratiques à Malte, et on a un procès de la part d'un cabinet d'avocats qui nous demande 1 million de dommages et intérêts. Quand même.
Vincent Prado, en tout cas, dans le village à Malte où vous êtes allé, à Chypre où vous êtes allé, il y a toutes les maisons qui sont là, personne n'y habite. On n'a pas l'impression que c'est un vrai investissement pour s'investir dans le pays. Vous êtes aussi allé en Finlande, avec
et Chypre,
une image...
c'est l'Union Européenne, pardon. Mais...
Bien sûr. En Finlande, une image qui fait froid dans le dos et qui fait vraiment réfléchir, une île privée, privatisée, qui a été investie par un oligarque russe. Qu'est-ce qui fait la raconter?
Alors, cet oligarque russe s'appelle Igor Kesaev. Moi, je suis tombé sur lui parce que c'est quelqu'un qui possède une usine d'armement qui fournit des armes puissantes aux forces russes qui sont en Ukraine. Donc, j'ai commencé à enquêter sur ce personnage, Igor Kesaev, et je me suis aperçu qu'il avait fait, quand j'étais à Chypre, avec son passeport chypriote, donc un passeport européen, il avait réussi à acheter une île en Finlande. Je suis allé en Finlande, j'ai retrouver cette île et on s'est aperçu que sur cette île, il a caché une piste d'hélicoptère d'un standard militaire.
Oui, elle est protégée par de la terre, enfin, comme si il avait déjà présupposé qu'on allait lui tirer dessus à la Kalachnikov avec son hélico.
Les services de renseignement finlandais sont intéressés à l'île, ils ont fait des vols de reconnaissance, ils soupçonnent que Igor Kesaev, et c'est un homme qui est très proche du FSB, ont ou veulent installer des systèmes d'espionnage sur l'île. Cette île, elle est extrêmement bien placée parce qu'elle est proche de la frontière russe. Elle permet de contrôler avec système d'espionnage les troupes russes en cas d'invasion des Russes vers la Finlande et à l'inverse, d'espionner les troupes finlandaises qui approcheraient pour défendre leur territoire. Donc c'est une île stratégique et il a pu l'acheter sans aucun contrôle parce qu'il avait un passeport chypriote, donc un passeport européen.
Ou on peut supposer qu'il déploie des méthodes d'investigation, de communication, d'espionnage au profit de l'armée russe et évidemment du gouvernement russe.
Alors, évidemment, pour ce doc, j'ai posé la question aux militaires, aux services secrets finlandais, c'est extrêmement sensible et ils ne me répondent pas.
Ils ont eu raison de ne pas vous répondre. Il y a d'autres gens qui ont refusé de vous répondre. Ce sont les oligarques que vous avez contactés pour ce film. Vous le dites, environ une trentaine. Tous ont refusé vos demandes. Pour quelle raison? Parce que par peur, je me souviens qu'il y a eu cette vague de morts suspectes quand même. Il y en a un qui se suicide, il y en a un qui tombe dans les escaliers, il y a beaucoup, beaucoup de morts.
Il y en a un qui est tombé de son bateau récemment, on a expliqué après qu'il ne savait pas nager.
Il y en a même un qui est empoisonné par son chaman avec du venin de crapaud.
C'est vraiment du venin de crapaud? Parce que ça paraît totalement aberrant.
À Moscou, en plein Moscou.
À Moscou. Donc effectivement, il y a une quinzaine d'hommes d'affaires puissants ou d'oligarques qui sont morts depuis le début de la guerre en Ukraine. Et donc, en contactant tous les oligarques proches de Poutine, on a contacté une trentaine. La plupart n'ont absolument même pas répondu. Certains ont dit non. Et la seule personne qu'on a réussi à convaincre de parler, c'est la femme d'un des oligarques les plus puissants, qui s'appelle Mikhail Friedman. Elle s'appelle Olga Ezeman. Et après 6 mois de négociations, elle a accepté de témoigner. Et une des premières choses qu'elle nous dit, c'est qu'elle a extrêmement peur pour son mari.
Son mari est à Londres.
Son mari est à Londres, il pèse 14 milliards de dollars, c'est une fortune immense. Il est ukrainien, malgré que la nationalité russe, il est ukrainien. Ses parents sont en Ukraine, il est contre la guerre en Ukraine, il n'ose pas le dire. Et c'est sa femme qui va nous l'avouer à demi-mot qu'il est contre cette guerre. Mais lui ne le fera pas officiellement parce qu'il a peur, tout simplement peur.
Olga, l'épouse de Mikhail Friedman, ou plutôt l'ex-épouse, a accepté de vous répondre dans son appartement à Neuilly-sur-Seine. On l'écoute.
C'est vrai que moi j'ai très peur pour lui. Ça veut dire que je ne voudrais surtout pas qu'il lui arrive quelque chose en lisant toujours qu'on trouve les hommes russes de business morts, pendus, je ne sais pas quoi. Vous voyez, ça me fait très très peur.
Surtout que selon Olga, Mikhail Friedman n'appréciait pas particulièrement le président russe et sa politique.
Du moment que Poutine est arrivé au pouvoir, tout de suite, il a voulu quitter la Russie. Oui, parce que c'est un homme qui, pour lui, la liberté, c'est le plus important. Il est parti du régime parce qu'il n'était pas tout à fait, en fait, il n'était pas du tout d'accord avec l'annexion de la Crimée.
Mikhail Friedman vit aujourd'hui à Londres.
Bernard Lavilladière, en tant que responsable de l'émission, on peut mettre des gens en danger en diffusant. Je vous le reproche pas, puisque j'ai passé moi aussi le son, mais vous êtes posé la question.
Oui, bien évidemment. Moi, on se pose des questions avec les réalisateurs sans arrêt. C'est Vincent qui a le contact avec elle, et c'est Vincent qui... je m'en remets à Vincent, bien évidemment. Après, il y a la responsabilité du diffuseur, de la chaîne, du rédacteur en chef, bien sûr.
C'est une question qu'on a en permanence à l'esprit. Et on passe les images de cette femme. Et on lui demande, bien sûr, si elle veut être floutée, si elle veut pas être floutée. On en discute longuement avec elle.
Mais il y a un militant des droits de l'homme que tu as interviewé, Vincent, à Biarritz, et qui a eu visiblement une tentative de meurtre.
Racontez, effectivement, c'est Vladimir Oshchenkin, c'est quelqu'un qui a réussi à faire sortir de Russie énormément de documents qui accusent le pouvoir russe, et notamment le FSB, de torture. Et Vladimir Oshchenkin, quelques semaines après l'interview, a été victime d'une tentative d'assassinat chez lui à Biarritz. Il y a eu une ouverture d'enquête. Il était tranquillement en train de travailler chez lui. Il a vu un petit point rouge défilé dans son appartement. Le point rouge, ça peut être la visée laser d'un fusil. Il s'est plaqué au sol, il a prévenu sa famille de se plaquer au sol, etc. Et il a eu extrêmement peur.
Après l'interview,
il est sous protection aujourd'hui.
Il est sous protection policière.
Après l'interview ou après la diffusion d'une interview, où est-ce qu'ils étaient même au courant qu'il y avait l'interview avant même qu'elle soit diffusée?
Vladimir Oshchenkin, c'est quelqu'un qui est menacé par le pouvoir russe depuis beaucoup d'années. Il est réfugié politique en France depuis une dizaine d'années et il est régulièrement menacé de mort. Il sait qu'il y a des... on l'informe, parce qu'il est très proche du FSB, il a des contacts au FSB encore aujourd'hui, et ces contacts-là l'informent qu'il y a des tentatives qui se préparent contre lui.
Merci beaucoup Vincent Prado, merci beaucoup Bernard Lavillardière d'être venus tous les deux dans ce studio. Je rappelle, ce numéro d'enquête exclusive sera diffusé ce dimanche à 23h10, le titre Oligarque russe, la grande traque. Merci encore. Dans un instant, beaucoup plus joyeux, Adeline Tognutti et Laure Ballon, ce sont les deux profs de la Star Academy qui revient sur TF1. La grande finale, ce sera ce samedi. Et puis on retrouvera également Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, nous recevrons deux professeurs re-emblématiques de cette nouvelle saison de la Star Academy, Adeline Tognutti et Laure Ballon. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les images fortes de l'actualité médiatique. Et ce matin, vous avez eu envie de nous parler d'une photo, une photo postée par une équipe de journalistes de France 2.
Oui, ils sont trois, Philippe, trois envoyés spéciaux, et ils se trouvent actuellement à Kherson, en Ukraine. Depuis plusieurs jours, France 2 diffuse leur reportage et on entend régulièrement leur nom à l'antenne.
Reportage de nos envoyés spéciaux, Stéphanie Pérez, Chloé Cormery et Bruno Bervas.
Stéphanie Pérez, Chloé Cormery et Bruno Bervas racontent donc le fracas de cette ville fraîchement libérée des mains des Russes, le chaos qui y règne, et ils nous montrent les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles vivent ces habitants qui viennent de prendre l'hiver et les bombardements de la guerre en pleine poire.
Lorsque la nuit tombe vers 16h et que le thermomètre frôle les 0 degrés, Kherson plonge dans l'obscurité et le froid.
Leurs reportages sont filmés à hauteur d'homme et ils racontent toujours, c'est le principe, la vie des autres.
Dans son appartement, Irina allume la gazinière. Seul moyen pour réchauffer pendant quelques heures la pièce qu'elle partage avec ses quatre enfants et sa mère.
Mais hier, nos trois confrères de France 2 ont eu une riche idée. Ils ont choisi de nous montrer la guerre d'une manière un peu singulière.
9 mois d'occupation russe dans le regard sombre d'un enfant de Kherson.
Ils ont choisi de s'arrêter sur... une photo, celle d'un petit garçon au regard grave, une image qui a fait le tour du monde.
Tout autour de lui, la foule se presse pour célébrer le départ des troupes de Vladimir Poutine, mais lui ne sourit pas.
Ils ont retrouvé ce petit garçon, ils l'ont filmé et ils nous ont conté sa vie, difficile en ce moment, et ses rêves pour plus tard. Alors dans les journaux de France 2, cette séquence-là porte un nom.
Derrière l'image, l'histoire de ce garçon au visage grave, devenu le symbole de l'enfance déchirée par la guerre.
Elle s'intitule « Derrière l'image ». Et figurez-vous que j'ai eu très envie ce matin de leur emprunter l'exercice. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dimanche dernier, les trois envoyés spéciaux de France 2 ont posté une photo sur les réseaux sociaux. C'est une photo d'eux, on les y voit tous les trois à Kherson. Ils sont dans une petite pièce sombre et blafarde qui a dû être le bureau ou la pièce d'appoint de quelqu'un avant la guerre. En fait, on comprend qu'ils sont logés chez l'habitant. On le comprend car les trois reporters ne sont pas en position de travail, non. Ils sont couchés à même le sol. La lumière, celle qu'a dû produire l'appareil photo de leur téléphone portable, est crue, glaciale comme le climat qui les entoure. Et de ces trois reporters, on ne distingue que les visages. Tout le reste de leur corps est emmitouflé dans des sacs de couchage. Enfin, pas tout à fait, car si Stéphanie Pérez et Chloé Cormery en ont un, Bruno Bervas, lui, n'en a pas. Pas de sac de couchage. Sa tête est recouverte d'une capuche, son corps est plongé sous une mince couverture rouge dont ne dépassent que ses pieds. Il porte de gros croque-nos, Bruno, des chaussures de marche, et on devine qu'il va dormir avec pour ne pas se geler les pieds, là, à même le sol, dans la nuit glaciale de Kherson. Derrière eux, on aperçoit un vieux fauteuil de bureau, un petit ventilateur qui a dû servir naguère quand il y avait encore de l'électricité et aussi une cage. La cage d'un oiseau, comme une allégorie parfaite de cette liberté que le conflit a brusquement mise entre parenthèses. Ils ont froid, seulement voilà, ils sourient. Ils sourient probablement parce qu'ils aiment leur travail et parce qu'ils savent, c'est la légende qu'ils ont écrite à côté de cette photo, que la situation est difficile à ceci près que pour eux, elle n'est que provisoire. Derrière l'image, il y a aussi la vie de ceux qui les tournent.
Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.
À demain.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Et oui, on reconnaît évidemment ce générique. Je trouve plus son nom à l'instant. J'aurais dû me le noter. Laure Ballon, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Laure Ballon, bonjour Aline Tognuti.
Bonjour.
Bob Sinclair, voilà, je ne trouvais plus le nom de Bob Sinclair.
Ah, je n'osais pas vous le souffler.
Que je connais par cœur. Vous étiez inconnu du grand public il y a encore quelques mois et maintenant vous êtes des figures du réseau social. On commente chacun de vos commentaires, des cours de récréation parfois, via la télévision. C'est TF1 qui a relancé la Starac. Vous avez vu l'IB du jour, Aline, aujourd'hui?
Oui, il paraît.
La tête qu'elle fait, je vous le montre, je vois le recours. Aline Tognuti, c'est la quatrième de couve de l'IB, c'est le portrait. La prof de la Star Academy est la vraie gagnante du télécrochet de TF1. Vous êtes professeur de chant. Laure, vous êtes professeur d'expression scénique. 2 millions de téléspectateurs suivent la quotidienne. Personne s'y attendait, même pas TF1, paraît-il. Vous attendiez vous-même à un tel succès? D'abord, je m'adresse à la grande gagnante de la Star Academy, selon
Libé. Je suis pas sûr que je sois la grande gagnante, mais en tout cas, c'est flatteur. Je remercie Libé.
Vous attendiez-vous à un tel succès?
Non, sincèrement, on s'attendait pas à ça et on a tout fait pour, mais on s'attendait pas à ça, n'est-ce pas, Laure?
Oui, oui. Non, on ne s'attendait pas du tout à ça, mais je pense que nous, les 5 profs, on a tout donné pour que ça puisse vraiment décoller et marcher et ensemble.
La grande finale, ce sera samedi à 22h après le foot. D'abord, un mot de vous. Comment avez-vous été recruté? Vous avez passé des castings comme les élèves, ai-je lu?
Oui, moi j'ai passé 6 à 7 mois de casting quand Endemol m'a téléphoné. Voilà, et beaucoup d'épreuves différentes. On est venu dans ma classe de chant, j'ai passé des interviews. Je ne vous fais pas la liste parce que ça va être un peu redondant. Mais voilà, et donc c'était assez long et j'ai su assez tardivement que c'était moi qui avais été choisie.
Alors moi, ça a été assez court, c'est-à-dire que ça a duré sur 2 semaines, mais par contre avec 3 interviews très intenses. Et moi, je suis arrivée là grâce à une ancienne élève d'il y a 10 ans qui a donné mon nom et voilà.
Laure Ballon, vous avez été danseuse étoile, c'est bien ça? Oui. Pendant 10 ans, vous travaillez comme danseuse. Oui. Et ensuite, vous êtes passée à la comédie. Oui. Vous aviez suivi les précédentes saisons? Vous regardiez la Starac?
Mais bien sûr qu'on a regardé.
Moi, parce que je vivais à l'étranger.
Ouais. Et vous?
Moi, je suivais, voilà, je me battais avec ma mère pour regarder la deuxième partie du prime parce que c'était tard. Et donc voilà, j'aimais beaucoup.
Alors, il y a une critique que je vais vous faire tout de suite, qui est à la fois une critique et un compliment. C'est Stéphanie Loire qui a dit, elle a dit « La Starac, je suis déçue, ils sont trop bons, ils chantent trop bien. » Et on ne voit pas ce côté école. Il y avait quand même des voix cassées, il y avait des casseroles quand ça a démarré. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le niveau est très haut? Vous comprenez? C'est à la fois un compliment et une critique.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Allez-y. Avec ce qu'elle dit, parce que quand on les a eus débutants, ils étaient vraiment débutants. Alors après, qu'ils aient peut-être un niveau un petit peu plus élevé, nous, ce n'est pas notre histoire. Mais moi, je vois que de semaine en semaine, avec tous les cours qu'ils ont eus, ils ont fait des progrès. C'est ça qu'il faut voir, en fait.
Moi, ce que je pense, c'est que la Starac, il y a 20 ans, entre-temps, vous avez eu d'autres émissions et les Français et le monde en général a pris beaucoup plus de cours de chant et plus au courant des techniques de chant, donc c'est normal que fatalement le niveau de base augmente. Certains ont plus d'expérience que d'autres dans le casting, il y en a comme Carla qui avait déjà chanté ou d'autres qui débutaient vraiment, donc après c'est vrai que le niveau de fond était plus haut qu'il y a 20 ans.
Pour dire les choses, il y a plus de Jean-Pascal
qui était un type qui avait été recruté sur une plage, qui savait chanter comme moi chez Joue au rugby, mais parce que c'était un personnage.
Mais peut-être que, je sais pas, peut-être que la France entière a un meilleur niveau de chant, moi c'est ce que je pense.
Ah, mais moi j'en suis sûre, le niveau de chant en France a beaucoup, et on trouve de magnifiques chanteurs.
Alors quand on regarde l'émission, on a l'impression qu'ils ne font que travailler. Est-ce que c'est une impression ? Je vais dire les choses différemment. La Star Academy, contrairement à The Voice ou contrairement à d'autres émissions comme ça, c'était un télécrochet, c'était un concours, mais il y avait aussi des histoires, il y avait des dortoirs, c'était aussi de la télé-réalité, et il y avait, je vois de petits sourires que vous voyez où je veux en venir, il y avait des histoires d'amour, là on a l'impression qu'il n'y en a pas, c'est que des gens qui bossent. Est-ce que je me trompe ?
Bah c'est vrai que je trouve qu'ils sont assez studieux. Ils ont un emploi du temps de ministre. Après, vous savez, c'est tellement une chance d'être à la Star Academy. Peut-être que ces jeunes se sont dit bah, « Je suis là, moi je veux absolument réussir dans la musique et donc je m'attelle au travail. » Et donc, ils sont peut-être très bons élèves. Voilà,
j'ai mal posé.
Et puis, en fait, il ne faut pas oublier que anciennement, la Star Academy durait 3 à 4 mois. Là, ça dure 6 semaines. Donc, ils n'ont peut-être pas le temps de vivre quelque chose.
Pas le temps. Ou alors, est-ce qu'il n'y a plus d'histoire d'amour ? Est-ce qu'il n'y a plus d'engueulade ? Ou alors, est-ce qu'il y en a ? Mais on ne les montre plus.
Oh, je pense pas,
si,
non.
S'il y en a quelques-unes, des petites, mais c'est pas des grosses engueulades, c'est des petits pics entre eux. Voilà. Alors après, moi, nous, c'est pas nous, on ne décide pas ce qu'ils montrent ou pas.
Et puis nous, de toute façon, on ne dort pas là-bas, on n'y est pas tout le temps, donc je peux pas exactement vous garantir les réponses, etc. Ce que je sais, c'est qu'ils sont très bienveillants quand même les uns entre les autres. C'est ce que j'ai l'impression ceux qui s'apprécient pas trop s'entraident quand même.
Voilà, je savais pas qu'il y en avait qui s'appréciaient pas trop, mais en même temps, c'est normal comme dans toute communauté humaine.
Attention, alors, toute raison gardée.
Évidemment, ce qui est intéressant, c'est les pics, évidemment. Je ne peux pas ne pas passer ce premier extrait avec vous, Laure Ballon, le jour où vous avez recadré Julien, mais uniquement parce que moi je voulais revoir, parce que j'avais lu des choses tellement dingues sur les réseaux sociaux. Non, ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux n'a pas été diffusé, ou alors il fallait faire, je ne sais pas comment, aller sur le site. C'est édulcoré, on écoute.
Tu peux t'amuser dans toutes les émotions. Tu dis les émotions ça me gonfle, ça veut dire que tu te fuis toi-même. T'as même pas fait un petit outil de ce que je t'avais donné vendredi ? Rien ! Quand je te demande qu'il faut rester planté, quand... Ben oui, ben voilà, t'écoutes rien.
J'étais pas là.
Eh ben, même quand t'es pas là, tu t'accroches aux mots et tu t'accroches à quelque chose.
Ben, c'est facile à dire.
Écoute-moi, la voix que tu as, elle est magique. Ne rejette pas les émotions qui sont au fond, parce qu'on va droit au mur.
La séquence en longueur qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, certains ont même parlé de harcèlement moral. Vous-même, vous êtes excusé. Est-ce que vous êtes allé trop loin ou est-ce que c'est l'époque qui a changé et les réseaux sociaux qui n'existaient pas il y a 20 ans du temps de la Starac ?
Moi, je vais vous avouer, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais des enfants, il y a un moment donné, quand on leur dit non, quand on leur dit de faire quelque chose, voilà, je pense que c'est la génération. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus dire. Et vous savez, moi, je ne l'ai pas... Il m'a, je pense, un petit peu provoqué avec la façon dont il a dit les choses. Mais je pense que ça venait d'un endroit aussi où lui avait peur, peut-être, de certaines choses. Moi, je suis partie avec. Je ne me suis pas excusée. Mais vous savez, il y a un moment donné, quand on veut... Nous, on ne sait qu'on n'a que 6 semaines pour la Star Academy. Donc, je voyais que Julien n'avançait pas. Il n'avançait pas. Donc, moi, j'ai voulu essayer peut-être d'activer la machine. Mais ce n'était pas maladroit. Et c'était rien contre lui. Parce qu'aujourd'hui, on se parle, Julien et moi.
Ben,
très bien.
C'est pour ça que c'est très étonnant. C'est les réactions. Moi, quand j'ai vu les réactions, on parlait de harcèlement moral.
Non,
avec ça,
c'est un petit peu exagéré, je pense.
Moral, c'est autre chose. Alors, il y a aussi que c'est une émission de télévision et Laure Ballon, d'abord les gens vous trouvaient trop gentille par rapport notamment à Raphaël Ritchie qui était l'ancienne prof de la Starac et puis finalement trop méchante. Est-ce que c'est vous qui avez changé ou est-ce que sont les consignes ? Parce que j'oublie pas que c'est un spectacle la télévision. Je vous pose la question à vous Laure, je poserai la même à Adeline.
Oui, alors moi je savais que dès le départ, les jeunes que l'on a engagés, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux. On leur enlève leur portable et on les enferme dans un château. Qu'est-ce qui se passe ? Tout l'émotionnel fait surface. Comment voulez-vous que moi je rentre dans un jeune après 2 jours quand on lui enlève son portable ? Il se serait braqué complètement pédagogiquement. C'est pour ça que moi, les 8 premiers jours, je me suis battue à les rendre. Ils ont pleuré pendant 1 semaine. Comment peut-on rentrer dans quelqu'un qui pleure ? C'est pas possible.
Que vous demande la production ? Ils vous demandent d'aller plus fort, d'aller moins fort, ou ils vous laissent totalement libre ? Est-ce qu'il y a des consignes ?
La production, des fois, nous informe s'il y a eu un problème dans le château, mais mineur, de l'humeur un peu. Moi, quand j'arrive le matin, on me dit ben, « Tiens, Chris est comme ça, il va bien. » Parce que nous, on n'a pas passé la nuit devant le live, ni la soirée. Moi, je les ai eus il y a 2 jours. Donc, on me tient juste informé de comment ils sont, ou s'il y en a qui est un peu plus fragile, etc. Mais ce n'est pas systématique. Après, moi, je vais vous dire une chose. Je fais comme je le sens. Et peu importe les choses, c'est-à-dire, je reste dans mon intégrité, dans ce que je ferai dans ma classe de chant. Dans ma classe de chant, des fois les élèves quittent, comme Julien avait quitté le cours, bon, bah, des fois je les laisse partir, ils partent, ils reviennent. Voilà, j'essaie de réagir comme je suis dans la vraie vie. Après, c'est sûr qu'il y a des caméras, mais moi j'estime que j'ai essayé d'être fidèle à ce que je suis dans la vraie vie.
La finale, c'est samedi, il y aura Léa, il y aura Louis, il y aura Enola, il y aura Anisha. Laure, quand on vous avait demandé si vous aviez un préféré, vous avez répondu j'ai un préféré. Comme il n'y a qu'un seul garçon en finale, Louis, est-ce que votre préféré est en finale ?
Bah vous savez, mon préféré, il a changé toutes les semaines parce qu'ils ont fait des progrès. Ils ont fait des progrès. Donc, en fait, ça. Je sais vrai qu'au départ, au premier prime, j'avais eu un coup de cœur pour Chris et sa, pour Chris et sa voix. Maintenant, on arrive aux quatre finalistes et j'avoue, je ne sais pas.
Bon, je ne vais pas vous demander un pronostic pour samedi soir, je vais vous demander un pronostic pour l'année prochaine. Y aura-t-il une saison 2 et en serez-vous ?
Franchement, là, à chaque fois, on nous pose la question. Nous, on est normal. Les moins bien informés. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Nous, on se concentre à tout terminer. On a essayé de scruter pour avoir des infos, mais personne ne nous répond. Donc, on ne sait rien.
On ne sait rien.
Donc, on ne sait pas si on sera l'année prochaine. On ne sait pas s'il y a une Star Academy. Puis on verra. Puis, on ne sait pas si on va nous rappeler. On n'en sait rien du tout.
On va bien terminer celle-là.
Si on vous rappelle, vous direz oui ?
Écoutez, pourquoi pas ?
On va en parler avec eux, savoir si on est libre.
Ouais, parce qu'on elle ne sait même pas si elle est libre. Ah oui, parce que votre vie a changé
parce
depuis.
Non, c'est pas ça, c'est que Laure et moi, on a des dates de spectacle. Moi, j'ai deux tournées en parallèle, donc si ça vient, il faut qu'on s'arrange avec mon producteur pour...
Et moi, j'ai deux tournées.
On entend parler de trois mois, donc c'est pas six semaines, donc il faut qu'on arrive à se libérer. Oui. On est, honnêtement, on est quand même motivés. On arrive au bout de six semaines, on a encore le sourire, donc tout va bien.
Je vois ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Laure Ballon, Aline Tognotti, ça se prononce comme ça, hein.
Tognotti.
J'aime bien comment vous prononcez. C'est la Star Academy, c'est tous les jours. Enfin, il ne reste plus qu'aujourd'hui et vendredi à 17h30. Et non, samedi. Et la grande finale, ce sera samedi à 22h
après le foot
sur TF1, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue après les infos de 10h. Notre invité, c'est le dessinateur Riyad Satouf pour sa dernière BD, L'Arabe du Futur. C'est le sixième et dernier tome, juste pour dire un chiffre. Traduit en 23 langues, 3 millions d'exemplaires vendus sur la planète. Et puis dans les indispensables, un film qui s'empare de l'affaire Weinstein. Et puis la polémique autour de la dernière saison de The Crown. Jean-Luc Lemoine arrive aussi pour sa session de rattrapage. A tout de suite.